Cube Radio.
CAA Québec, fier présentateur de l'émission Le Guide de l'Auto. Saviez-vous que CAA Québec, c'est aussi pour les véhicules électriques? Découvrez le balado sans détour, des conseils, des offres exclusives et bien plus au caquebec.com. Bonne écoute.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 8 mai 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, première nouvelle, et peut-être avant d'embarquer là-dedans, oui. Juste mentionner qu'en deuxième partie d'émission, on va avoir avec nous le président de l'Association des travailleurs en signalisation routière au Québec, qui veut vraiment sonner l'alarme, parce qu'encore une fois, au mois d'avril, ben il y a eu un décès sur un chantier à Saint-Cyril-de-Wendover, probablement causé par, encore une fois, l'insouciance d'un automobiliste. Dans ce cas-ci, c'était un camionneur qui a causé le décès d'un travailleur.
Un décès qui aurait pu être évité, carrément.
Ben, oui, absolument. Alors, on va parler avec ce président-là qui en a long à dire et qui veut aussi peut-être envoyer un message aux autorités policières et à la SAC qui ne semble pas faire grand-chose à ce niveau-là. Mais on va commencer par une nouvelle d'importance, hein, la fermeture d'une usine de GM en Ontario pour 2 mois pour cause de pénurie de pièces.
Oui, donc l'usine Cami de General Motors à Ingersoll, en Ontario, l'usine où on assemble notamment le Chevrolet Equinox. Et justement, tu l'as mentionné, on va poursuivre la fermeture jusqu'à la semaine du 28 juin. Et ça, si tout se passe bien. Puis il faut quand même mentionner que cette usine-là est fermée depuis le 8 février. Donc ça commence à être long, ça commence à tarder. Puis une fois de plus, pourquoi on poursuit cette fermeture-là? Mais c'est carrément parce qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs. On en entend parler depuis des semaines. Évidemment, c'est une pièce très importante dans la construction d'automobiles, ouais. Une pièce essentielle. Et les fournisseurs ne sont pas capables de remplir leurs commandes, de répondre à la demande. Donc, les usines n'ont pas le choix d'être arrêtées, tout simplement. Donc, c'est malheureux pour l'industrie manufacturière ontarienne.
Souffre énormément.
Absolument.
Bon, toujours dans l'industrie ontarienne.
Oui, grosse semaine pour l'Ontario.
Grosse semaine parce qu'on a débuté la production de la Civic. On va finir par l'avoir un jour. Ouais. La Civic 2022, on a entendu parler à toutes les semaines depuis 2 mois. Là, la production est commencée, donc on peut assumer que le véhicule va se retrouver dans les cours de concessionnaires d'ici 6 à 8 semaines.
Oui, donc c'est ce qui est prévu pour cet été. On en a parlé en long et en large la semaine dernière avec le président d'un concessionnaire Honda du Québec. Ouais. Effectivement, donc la Civic de 11e génération qui entame sa production cette semaine. Ça va être intéressant à suivre. Et notons quand même que ça concerne la berline seulement, la Civic à Hayon, donc la version à 5 portes. Il va falloir attendre quelques semaines de plus, là.
Bon, nouvelle d'importance. Et là, j'avais hâte que ça arrive, oui. Là, parce que les courriels se multiplient à ce sujet-là. Hyundai qui rappelle 110 000 véhicules au Canada, effectuant un rappel à la suite de Kia qui a fait un peu la même chose. Là.
Oui, effectivement. Donc, on rappelle 110 000 véhicules. Ça touche des Hyundai Kona 2019 à 2021, Elantra 2019-2020, Veloster 2019-2020. Et ce sont tous des véhicules munis du moteur 4 cylindres atmosphérique de 2 litres. On recevait des messages depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, en lien avec des pannes causées par ce moteur-là, des problèmes connus avec ce moteur-là. C'est dommage parce que c'est des produits qui, quand nous on les conduit, quand ils sont tout neufs, qu'ils ont à peine quelques centaines de kilomètres, c'est des véhicules relativement convaincants. Malheureusement, la fiabilité à prévoir, c'est toujours difficile de se prononcer. Mais là, en même temps, c'est gênant.
Ça devient pas drôle comme situation. Alors, chez Hyundai, bon, évidemment, tu l'as dit, Kona, ouais. etc. Chez Kia, c'est la même chose. Hein. La quantité de messages que j'ai reçus de gens qui ont eu des problèmes
des Seltos,
de moteur.
Par exemple.
Seltos et Soul.
Et il s'en vend à la pelletée des Seltos.
Exactement. Alors, Seltos et Soul, il y a quelqu'un qui me disait, dans un concessionnaire de la Beauce, qu'on avait remplacé plusieurs moteurs en une seule semaine dans des Seltos, des moteurs 2 litres, un moteur qui cognait à 2000 km, parce que c'est des problèmes de bielle, de piston, c'est vraiment des problèmes mécaniques qu'on a avec ces 2 litres-là.
Et on ne répare pas, on change carrément.
On ne répare pas, on change.
Mais il y a une question qui demeure. Est-ce qu'on change le moteur par un moteur finalement qui est identique et on va connaître le même problème dans 5000 km?
Ouais,
ou c'est un moteur qui a été repensé?
Bien, il faut se poser la question parce qu'on se souvient du rappel massif qu'on a fait sur les Elantra 2012, 13, 14, etc. Ouais. On avait remplacé des moteurs massivement, même chose pour les Forte.
Mais on les avait remplacés par les mêmes moteurs.
Par des moteurs soi-disant évolués, mais finalement, on a refait le travail une deuxième fois.
Donc, on reportait le problème finalement.
Ouais, exactement. Puis j'ajouterais à ça que les Kia Seltos, on a aussi eu des problèmes avec les moteurs 1.6 turbo, des turbocompresseurs qui font défaut. Transmission double embrayage dans les moteurs, avec les moteurs 1.6 turbo, défectueuse. C'est pas des farces, là. On a des sérieux problèmes de fiabilité. Puis là, on a beau faire des rappels, ça demeure des irritants, là.
C'est très problématique.
Alors, c'est des véhicules qu'on recommandait au guide de l'auto, moi, je commence à avoir un sérieux problème à recommander tout ce qui a un moteur 2 litres.
C'est absolument gênant et on n'a pas le choix, effectivement, de ne plus recommander ces véhicules-là. Non. C'est malheureux, mais on comprend les consommateurs québécois de s'être portés vers ce véhicule-là. Il y a une bouille sympathique, c'est agréable à conduire. À l'intérieur, bon, c'est bien aménagé. Ça enlève en rien ses qualités, mais en même temps, si le moteur arrête de tourner 5000 km plus loin, c'est un très mauvais achat.
Non, c'est ça. Alors, là, on a un problème. Oui. On y fait face. On a fait une campagne de rappel. Oui. C'est correct.
On n'a pas glissé ça sous le tapis, là.
Non, c'est ça. On fait face à la réalité, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit un problème réglé rapidement. Et est-ce que le véhicule que j'achète aujourd'hui chez un concessionnaire a un moteur fiable? Personne ne peut me le dire. C'est le temps qui va nous le dire. Remarque qu'il y a des gens qui ont acheté des Soul. Il y a une dame qui m'a écrit. Elle a acheté elle avait acheté une Kia Forte.
D'accord.
Le moteur a sauté. Elle l'a remplacé par une Kia Soul.
Ouais.
Elle a eu un problème avec sa transmission IVT qu'elle a fait remplacer sous garantie. Et ensuite, c'est le moteur 2 litres qui a fait défaut.
Moi, j'ai acheté un autre véhicule.
Très rendu chez Toyota, moi.
Oui, ça ferait longtemps que j'aurais une Corolla entre les mains, je te le confirme.
C'est vrai chez Kia, c'est vrai chez Hyundai, mais... Là, est-ce qu'on va faire face à la réalité? Est-ce qu'on va prendre nos responsabilités? On semble le faire avec les rappels, en espérant bien sûr que les problèmes soient définitivement réglés. Et ça, malheureusement, j'en doute.
Oui, et on peut rien dire. On peut pas prédire. On n'a pas de boule de cristal, malheureusement.
En attendant, moi, je mets un sérieux bémol sur la recommandation d'achat de ces véhicules-là. Et je vous le dis, je vous le donne en mille dans le guide de l'auto 2022. Vous verrez un match comparatif incluant ces véhicules-là. Et il y aura un astérix concernant la fiabilité de
Kia Seltos. On n'a pas le choix.
Ça, c'est certain. Les prix du Ford Transit électrique sont sortis.
Oui, effectivement. Donc, le virage vert que même les fourgons de transport vont prendre. Donc, pour 2022, Ford va proposer, on le savait déjà, une version 100% électrique de son Transit.
Ouais.
Et cette semaine, on a connu les prix, c'est-à-dire le prix de départ est à 57 925 $. J'ose imaginer que ça va plaire à une certaine partie de la clientèle. Je sais pas si on est peut-être plus conservateur quand on a une flotte de 10, 15, 20, voire 200 véhicules de livraison, par exemple. J'ai hâte de voir si ce véhicule-là va connaître de l'engouement. On sait qu'une grande partie des dépenses, c'est de l'essence, parce que ces véhicules-là, souvent, vont rouler un quart de travail, voire deux quarts de travail par jour. Donc, au bout de la semaine, ça fait des factures d'essence assez salées.
L'autonomie est quand même assez limitée.
Oui, on est à 200 km, là.
Donc, 200 km, c'est pour du transport urbain.
Absolument. C'est du transport urbain. On oublie les grandes distances. Là. Il n'y a pas de...
Et c'est un véhicule uniquement propulsé. Il n'y a pas de 4 roues motrices dans ces versions-là, évidemment.
Alors que la version essence, elle, propose une version 4 roues motrices.
Donc, est-ce qu'on est capable de se recharger rapidement pour faire le plein d'énergie et repartir rapidement? J'ai hâte de voir quelle sera l'utilisation réelle de ces véhicules-là.
Et est-ce qu'on va en avoir?
Bon, ça, c'est l'autre chose.
Ça, c'est l'autre point, la disponibilité, la diffusion de ce véhicule-là.
200 km l'été, ça veut-tu dire 120 l'hiver?
C'est une excellente question.
Alors, c'est...
Mais en même temps, c'est un virage qui se prend tranquillement. On a eu des véhicules électriques là, de première génération, ça fait déjà plusieurs années. L'autonomie a monté. Quand on regarde ça et qu'on regarde chez GM avec le Chevrolet Express, on nous propose encore des moteurs à 8 cylindres qui consomment sans bon sens. et là, chez Ford, on propose une version électrique. Donc, on n'a pas le choix quand même d'encourager les
Ford. C'est sûr que quand tu regardes GM et Ford, on est ces deux opposés.
Oui, c'est deux stratégies différentes, mais ça reste des fourgons de transport finalement qui accomplissent un travail similaire. Mais c'est deux technologies complètement opposées. Et il y en a une qui est un petit peu plus moderne que l'autre. Donc, c'est un premier pas et on a hâte de voir les autres pas. Disons ça comme ça.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, cette semaine, j'ai conduit la version 2022 de la Kia Stinger. Donc, on l'a légèrement retouché et j'insiste sur le mot légèrement parce que c'est des détails.
Ça se résume à des surpiqûres.
Des surpiqûres, des jantes différentes. Et on a apposé, bon, évidemment, le nouveau logo du constructeur coréen. C'est très timide comme évolution quand on compare à sa presque jumelle qui est finalement la Genesis G70 qui est a droit à une signature stylistique un peu plus moderne. Elle me paraît un peu plus revampée que la Stinger. On a fait un plus grand effort pour la moderniser, alors que chez Kia, ben, on est demeuré assez timide. Donc ça me laisse un peu sur mon appétit. Ça reste la même belle voiture qu'elle était, ça, il n'y a aucun doute. Ça reste la même voiture plaisante à conduire. On nous rajoute en passant 3 chevaux. Je ne sais pas pourquoi on rajoute 3 chevaux, mais bon, c'est ça quand même. Ça reste la même...
Ça reste que ce jour-là, oui. Il y avait une meilleure essence à la station-service.
Oui, c'est un très grand mystère. On s'entend que personne ne va remplacer sa Stinger 2020 à cause de ça. Mais bon, mais ça reste la même voiture, très plaisante à conduire. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir au volant de cette voiture-là. Je l'ai dit, je l'aurais dit.
Mais ça sent la fin. Honnêtement, ben moi, oui, je regarde la Kia Stinger.
On a réduit la gamme, donc des versions, entre guillemets, abordables de la Stinger, il n'y en a plus. La version de base est à 50 495 $, donc c'est substantiel. Donc j'ai hâte de voir quel avenir attend cette voiture-là, mais moi, je demeure
J'aurais souhaité qu'on modernise la présentation de l'instrumentation, parce que je veux dire...
Mes attentes étaient là, en fait. C'est quand je suis embarqué dans la voiture, j'ai dit « Ah! » Ben, c'est une 2021. C'est exactement la même voiture. Affaire. On a rajouté, là, franchement, quand on dit...
On a mis de l'Alcantara sur la planche de bord. On a changé les surpiqûres, c'est ça.
Puis on a mis des ceintures rouges, puis ça finit là.
Oui, mais j'ai l'impression, moi, qu'un an ou deux, puis c'est terminé, là.
Impression aussi. J'ai l'impression que Kia ne met pas beaucoup d'efforts sur cette voiture-là. Une voiture qui se vend au compte-goutte, mais une voiture relativement emblématique pour la marque.
Ouais.
Mais
malheureusement... très belle. Très magnifiquement dessinée. Ouais.
Très belle, et ça se conduit merveilleusement bien. Ça, on lui enlève pas ça, mais les acheteurs ne sont pas au rendez-vous, malheureusement. De ton côté, Antoine, Audi RS6, je pense que tu t'es fait juste un petit peu plaisir.
Ouais, Audi RS6 avant, évidemment, familial de très, très, très haute performance, voiture select, prix d'entrée à 120 400 $. Dans le cas de la voiture que j'essaie cette semaine, 137 895 $, le prix de la voiture.
Oui, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, on en obtient beaucoup pour ce prix-là.
Bien, j'ai fait un exercice comparatif parce qu'évidemment, sa rivale la plus proche, c'est la Mercedes AMG E63S familiale, qu'on vend grosso modo pour 6 000 $ de plus.
Ouais.
OK? Un peu plus puissante, un peu plus violente au niveau de sa conduite chez Mercedes. C'est une voiture avec laquelle on peut complètement désactiver le différentiel, ce qui fait que ça devient une voiture propulsée, donc avec laquelle vous pouvez drifter littéralement, ce que vous ne ferez pas avec la RS6.
Parce qu'elle demeure quattro.
Chez Mercedes, oui, elle demeure quattro. Chez Mercedes, c'est vraiment... Elle fait pas mal plus muscle car. C'est beaucoup plus... c'est vraiment plus violent comme machine que la RS6, qui est extrêmement raffinée et qui vous offre le meilleur des mondes. Bon, évidemment, pas besoin de te dire que la puissance est toujours là. J'ai vraiment été impressionné, et ça, c'est une belle amélioration, par la rapidité d'exécution de l'accélérateur. Chez Audi, on le sait, là, le délai à l'accélération est vraiment un irritant, et c'est encore le cas pour la 63S de Mercedes.
Oui, absolument.
Mais dans le cas de la RS6, ça répond très rapidement. Alors ça, c'est très bien. Et je te dirais que Si tu veux conduire cette voiture-là de façon docile, c'est possible de le faire sans avoir l'impression de te faire brasser la cage.
Donc, on peut utiliser cette voiture-là au quotidien sans problème.
Faut quand même considérer que les jantes de 22 pouces qu'il y a là-dessus composent pas toujours super bien avec la réalité de nos routes québécoises, mais les éléments suspenseurs sont tellement raffinés, c'est une suspension pneumatique, bien sûr, qu'on a là-dessus, c'est tellement efficace qu'on ne sent jamais de cognement malgré la minceur des flancs de pneus. Alors ça, j'ai vraiment trouvé qu'on avait superbement travaillé au niveau des suspensions. Bon, les voies sont super larges, la tenue de route, c'est exceptionnel. La direction, c'est précis, c'est au doigt et à l'œil. C'est une voiture qui est quand même assez lourde, hein, 2250 kilos.
Ben, elle est grosse, là.
Elle est grosse, elle est massive, mais les performances, c'est hallucinant. C'est moins puissant, évidemment, que la Mercedes par une quinzaine de chevaux. En fait, c'est 591 chevaux contre 607, si ma mémoire est bonne, chez Mercedes.
Mais rendu dans ces sphères-là, voilà.
C'est ça. Alors, puis pour un 0-100 km/h, on parle d'à peu près 3 secondes et demie, 3,6 secondes. C'est une fusée, c'est littéralement une fusée. Les sensations sont là. Et c'est pour moi une voiture, un véritable fantasme sur roue. Je m'explique mal comment on peut aller choisir un RS-Q8, par exemple.
Ce que beaucoup de consommateurs font, d'ailleurs.
On va vendre beaucoup plus de RS-Q8 que de RS-6.
Et ironiquement, la RS-6 est probablement plus pratique, encore plus.
Oui, et plus équilibré. Oui. Parce que le RS-Q8, veut pas, c'est un véhicule super performant, mais qui compose avec les lois de la physique puis avec les lois de la gravité qui se bat tout le temps contre ça, alors que la RS6, c'est une voiture dans laquelle tu as beaucoup d'espace, de technologie, tu as un coffre qui est volumineux, un petit peu moins que chez Mercedes, aussi drôle que ça puisse paraître, mais tu sais, c'est quand même une voiture pratico-pratique pour celui qui cherche la meilleure performance et le meilleur des mondes sans trop faire de compromis au niveau du plaisir de conduire. Je pense que la RS6, c'est dur à battre. Évidemment, pas besoin de te dire que actuellement il y a une pénurie de ces véhicules-là. Et le problème, c'est que si tu te pointes pour en acheter une chez le concessionnaire, on va probablement te dire que c'est sold out pour l'année. Mais tu vas pouvoir te tourner vers des entreprises de location qui, eux, en ont acquis plusieurs et vont te les vendre plus cher parce que il y a de la surenchère sur ces modèles-là actuellement.
Ouais. La demande est très forte, là.
La demande est très forte, avec raison. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. Puis oui, c'est un de mes coups de cœur de l'année. J'étais un peu gêné de dire qu'un de mes coups de cœur de l'année, c'est une bagnole de 140 000 piastres, mais c'est quand même ça.
Mais en même temps, on a le droit de laisser notre cœur vibrer un peu, là.
Bien sûr, puis moi, je m'étais... Bon, évidemment, quand la voiture a été dévoilée, je jubilais à la seule idée de la conduire. Mais rapidement, il y a quelques personnes qui m'ont dit « Ouais, j'ai pris le volant de ça, puis je m'attendais à plus. » Je pensais que ça serait... Bon.
Et toi, est-ce que tu as connu cette légère déception-là ou pas du tout?
J'avais ces deux idées-là en tête. Et moi, ce qui m'a le plus surpris de la RS6, c'est son niveau de raffinement. Ce que j'aime pas nécessairement de la Mercedes, parce que, bon, une Mercedes, ça craque. Il y a des craquements à bord. Ça, c'est inacceptable, honnêtement. Puis toutes les Mercedes récentes que j'ai conduites, le GLE 63 AMG, c'était la même chose. Seigneur, la qualité d'assemblage, la finition est belle, là, mais la qualité d'assemblage, pas tout à fait ça. Mais chez Audi, c'est impeccable. Alors ça, c'est vraiment à la hauteur. Et la voiture, elle est solide comme le roc. Elle se conduit facilement. C'est pas un sévice que de conduire cette auto-là, alors que la Mercedes, mais il faut quand même que tu te battes un peu avec. Elle est plus instable, ou je te dirais moins stable.
Ouais.
Donc, personnellement, j'ai nettement préféré la RS6 à la E63 familiale. Question de goût personnel, j'enlève rien à Mercedes, qui a quand même l'audace de commercialiser ça. Et évidemment, dans quelques jours, je prendrai le volant en plus de la M5 compétition en berline.
Okay.
Et là, je me permettrai de te dire, je me permets de te dire pourquoi est-ce que BMW amène pas sa familiale M5.
Ça ferait du bien. Ça ferait un trio allemand.
Parce que
simplement
deux,
parfait.
Mercedes et Audi connaissent beaucoup de succès avec leurs familiales respectives. Qu'attend BMW pour répondre à ça? Parce que là, on a une berline, mais je veux dire, les acheteurs chez BMW achèteraient assurément une familiale. Chez Mercedes, c'est sold out et E63 AMG. On fait beaucoup de volume avec cette voiture-là, ironiquement. Plus que si on vendait une familiale régulière. Je pense que chez Audi, d'ailleurs, on vend plus de RS6 avant que de A6 All-Road. Alors, Alors, tu sais,
Et que de A6 Berlin, probablement.
Oui, l'A6 Berlin aussi, c'est une voiture, bon, qui, pour laquelle il y a moins d'intérêt aujourd'hui.
Ouais.
Fait que, tu sais, la RS6, c'est une voiture d'exception. C'est vraiment hallucinant, mais qu'attend BMW pour arriver avec la M5 que je conduirai en version Berlin prochainement? J'ai bien hâte de comparer tout ça, mais en attendant, j'adore ça, cette RS6-là. Sauf que en location à 2 500 $ par mois, c'est pas dans mon budget.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, aujourd'hui, on est en compagnie du président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, l'ATSRQ. Je vais essayer de retenir ça, là. C'est quand même long comme...
Oui, effectivement, bon. C'est peut-être une bonne idée.
Voilà, alors on est en compagnie de Jean-François Dionne. Bonjour, Jean-François.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci, vous aussi?
Ça pourrait aller mieux.
Bon, ouais, c'est ça. On vient, on va parler avec vous, évidemment, du métier qui s'en vient de plus en plus dangereux. Hein. Je pense qu'on peut, quand même parler ainsi, là.
Oui, c'est un métier très dangereux. On est tombé en 2016, on avait 41 accidents déclarés à CNSST. En 2020, on est arrivé à 104 accidents déclarés à la CNSST, mais on sait tous que... pas tous les accidents sont déclarés vers la CNSST. Fait qu'on, nous, on croit qu'il y en a un petit peu plus que ça.
Puis évidemment, bon, il y a le nombre de blessés, mais il y a aussi des gens qui finissent par en décéder, malheureusement. Est-ce que vous êtes en mesure de nous peut-être donner quelques chiffres, quelques statistiques qui sont malheureuses en lien avec ça?
Ben, on a plusieurs décès, là, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'au 14 avril, on a eu une quinzaine de travailleurs décédés. L'année 2019 a coûté la vie à 3 signaleurs. En 2020, on n'a pas eu d'accident en 2020 mortel.
Il y a eu moins de chantiers aussi, peut-être, en 2020. Là, on sait que ça a été une année particulière, mais bon.
Oui, c'est ça. Puis en 2021, on a Pascal Cochon, mais c'est vrai, j'ai pensé, ben l'autre, parce que on en a eu un en 2020, mais c'est un installateur de Jersey. Fait qu'il faisait pas la signalisation, mais il installait un chantier pour sécuriser les travailleurs de construction. Mais on peut le calculer comme travailleur de la signalisation vu qu'il installe les Jersey en béton qu'on voit sur les autoroutes. On a eu un en 2020, mais la CNSST, les autres l'ont calculé comme travailleur de la construction, là, mais okay. C'est vraiment un travailleur.
Bon. Et là, évidemment, il y a eu un décès récemment, le 4 avril dernier, de M. Cochon qui est décédé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances qui ont mené à son décès?
Bien, M. Cochon était après d'installer un chantier sur l'autoroute 20 en direction Québec, en Cécile de Landover, dépassé Drummond. Il est après d'installer son chantier, puis malheureusement, il y a un poids lourd, un train routier qui a rentré dans la moteur d'impact. Il a frappé M. Cochon, il a frappé son pick-up, et le pick-up et la vanne ont fini dans le fossé, puis M. Cochon, lui, s'est ramassé malheureusement sous la flotte, décédé sous le coup.
Est-ce que ce type d'accident-là pourrait être évité, autant dans le cas de M. Cochon que les autres signaleurs qui ont été blessés? Est-ce que c'est des accidents qui auraient pu être évités?
Oui, c'est tous des accidents évitables, oui. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de manque de courtoisie entre les automobilistes et le signaleur, ou entre les automobilistes, les camionneurs. Le monde veut toujours être le premier devant, ou pourquoi c'est moi, pourquoi c'est pas l'autre en arrière qui est stoppé. Mais si je regarde, moi j'étais en Ontario à quelques reprises au mois d'avril. En Ontario, le monde commence à se tasser à la première panneau, perte de voie, fusion de voie. Mais au Québec, on attend d'être rendu dans la moteur d'impact ou au premier cône avec la flèche oblique, dire au monde, ben là, la voie est fermée, tasse-toi, là. Mais si le monde commençait à se tasser au premier panneau, on va dire sur l'autoroute, là, habituellement, il y a un panneau 1,5 km avant. Fait que si le monde tasserait au premier panneau 1,5 de perte de voie, fusion de voie, ça donnerait la chance sécuriser un petit peu le chauffeur de la moteur d'impact qui est là, malheureusement, pour se faire rentrer dedans, mais c'est quand même plate pour comme travail, ça fait rentrer dedans, mais le monde devrait toujours commencer à se tasser de voie au moins 1 km avant ou 500 mètres avant, pas attendre d'être rendu dans le camion ou sinon au premier cône, parce que là, si vous mettez votre vie en danger et la vie d'autres travailleurs en danger.
Est-ce que vous croyez que pour régler cette situation-là qui est vraiment malheureuse au Québec puis qui devient évidemment de plus en plus importante considérant la multiplication du nombre de chantiers sur nos routes, est-ce que vous considérez que ça prendrait une loi comme on a fait pour la loi de contournement quand il y a une voiture de police ou un véhicule
le
d'urgence?
Le move over.
Est-ce que ça prendrait une loi de ce genre-là selon vous pour régler définitivement ce problème-là, parce que là, évidemment, il n'y a pas de loi spécifique qui nous oblige à se tasser de façon préventive comme on le fait lorsqu'on voit un véhicule d'urgence sur l'accotement. Là.
Vous trompez. Vous êtes dans l'erreur. Comme la 95% de la population, vous trompez. La loi du corridor de sécurité que j'ai travaillé avec Pierre Moreau et l'Association des remorqueurs du Québec, les contrôles routiers, la loi était claire. Au début, c'était seulement les véhicules d'urgence. Mais si vous lisez le Code routier du Québec, ça dit tout véhicule muni de flèches lumineuses, clignotant allumé ou gyrophare allumé. Nous, on fait partie de ça. Si vous regardez les nouveaux panneaux du ministère des Transports qui installent au bord des routes, le ministère des Transports a décidé de mettre un pick-up du ministère des Transports sur un routier pour dire que tout véhicule muni de gyrophares et de flèches, on doit se tasser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais d'opération sur les chantiers de
Sûreté
de Québec. Si on arrête la Sûreté de Québec sur nos chantiers, qui interceptait tous les véhicules qui ne respectent pas la loi du corridor de sécurité, inquiétez-vous pas, le message passerait. Parce que dans la loi du corridor de sécurité, c'est bien écrit, tout véhicule muni de gyrophares, de flèches ou de clignotants allumés, il faut se tasser. Même si c'est une voiture personnelle qui est arrêtée dans la voie d'accotement, il y a ces clignotants allumés, vous devez vous tasser. C'est pas seulement les véhicules d'urgence, c'est tout le véhicule.
Et pourquoi la SQ, selon vous, et peut-être les autres corps de police, ne font pas d'opération dans ce sens-là? Parce que, bon, on va souvent dénoncer le fait que la police va se cacher derrière un buisson, derrière un viaduc pour faire du radar, par exemple, et on remet en question notre protection, notre sécurité quand on a des opérations comme ça et qu'on se cache. Mais dans le cas de surveillance de chantier et de surveillance du corridor de sécurité, la sécurité d'humain est vraiment mise en danger. Pourquoi les corps de police ne sont peut-être pas plus proactifs de ce côté-là?
Un, manque de personnel. La Sûreté du Québec n'a pas assez de personnel. Et deux, ils s'en foutent des travailleurs de la signalisation. Pourtant, sur la Sûreté du Québec puis dans les corps policiers, le premier mandat, ils ont, c'est de sécuriser, protéger le citoyen ou les citoyennes. Nous, on devrait être inclus dans ça, protéger et sécuriser, nous protéger. Mais sauf que quand on demande à la Sûreté du Québec, ils disent toujours qu'ils sont en manque de personnel et le ministère des Transports, à chaque année, envoie une subvention à la Sûreté du Québec pour se déplacer chez les chantiers. Mais la Sûreté du Québec a la carte blanche. Ils peuvent surveiller 3 chantiers s'ils veulent dans l'année, ils vont avoir leur foutu chèque. Nous, on demande au ministère des Transports, arrêtez de donner les subventions à la Sûreté du Québec, on veut avoir les chiffres réels. Arrêtez d'envoyer des policiers à temps partiel sur le chantier. Ça nous prend des policiers. Nous avons proposé au ministère des Transports de prendre des policiers cadets qui sortent de l'Institut de Nicolette. Pendant la première année, on les prend tous, ces policiers-là, puis on les forme sur les chantiers. Inquiétez-vous pas, si on les envoie sur les chantiers pendant un été au complet, ils vont être sensibilisés. Des policiers cadets sur les chantiers qui pourraient donner des étiquettes. Ils pourraient travailler de nuit, ils pourraient travailler de jour, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de policiers de nuit et le jour, ils sont appelés à faire d'autres appels que surveiller des chantiers routiers.
Ben moi, je vous dirais, j'ajouterais peut-être même que ce qu'on constate souvent, et je pense à un chantier notamment qui est actuellement sur l'autoroute 10, ce qu'on constate souvent, c'est qu'on va mettre des policiers en action au radar dans des zones de construction alors qu'il n'y a personne dans le chantier.
Absolument.
En train de travailler, mais pas parce que c'est une zone de construction, les amendes sont doublées, donc c'est payant, et là, on cache. Alors, on met un photoradar, par exemple, on va mettre des policiers en place dans une zone de construction quand il n'y a plus un donné travailleur sur place, et encore moins un signaleur routier, pour remplir les poches des fonds publics. Mais la sécurité des travailleurs, lorsqu'il y en a sur place, bien là, c'est drôle, il n'y en a pas de policiers à ce moment-là. Puis on ne regarde que la vitesse, mais non pas nécessairement les travailleurs qui sont sur place. Je vous avoue que j'étais dans l'ignorance de cette règle-là de devoir contourner un chantier. Mais faut amener aussi le volet de la vitesse. Est-ce que vous considérez que c'est la témérité des conducteurs automobiles de rentrer à la dernière minute dans les rangs, ou est-ce que la vitesse, selon vous, est aussi un problème?
Ben, tu sais, c'est sûr que le monde, il respecte pas le 72 km/h. Fait qu'il roule 100 quand même. Puis les camionneurs, les autres, sont pluggés à 105 km/h, puis ils ralentissent pas sur un chantier. Ça passe à côté de nous autres. Ça passe tellement vite, là, les cônes bougent. Puis on le sait, quand on le sait que le véhicule est en haut de 70, c'est facile, nous autres, sur les chantiers, ah, le cône a bougé. Il a roulé en haut de 70. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui est en train d'installer un cône orange dans son camion de plateforme, il voit le 53 pieds arriver, là, puis qu'il ralentisse pas. Il fait même pas semblant de se tasser de quelques centimètres. On se fait frôler les casses, on se fait frôler les cônes, on se fait frôler la main. Pensez donc que c'est quelqu'un de votre famille qui est en train de travailler à un salaire de moins que 20$ de l'heure, qui fait ça pour protéger des travailleurs qui gagnent 30-40$ de l'heure. Nous autres, on gagne 18,84$ pour aller risquer notre vie. On veut revenir à la maison avec notre boîte à linge, voir nos enfants. Mais là, il y a 15 travailleurs depuis des années qui sont morts, qui sont jamais revenus. Imaginez le nombre d'enfants qui sont orphelins, le nombre de femmes qui sont orphelins. Ça détruit des familles au complet.
Bien, j'ai pas le choix d'être d'accord avec vous. Maintenant, je me permets de vous poser une question. Est-ce que dans certains cas, ce n'est pas plus risqué que de mettre un signaleur de chantier en place plutôt que de seulement laisser le travailleur sur place? Parce que des fois, on peut se poser la question, le travailleur qui est dans les airs sur un poteau ou qui travaille à 3-4 mètres de distance d'une voie, bien, peut-être que lui est plus en sécurité et drôlement moins à risque que le signaleur qui, lui, est là pour indiquer qu'il y a un travailleur qui, finalement, est peut-être plus en sécurité que lui-même, là.
Je suis pas d'accord avec vous. Là, une couple d'années, on a...
Non, mais je vous pose la question, là.
Là, une couple d'années, on est arrivé avec un accident à police civile. Il y avait des signaleurs. Le gars est en boisson. Il a frappé le véhicule du signaleur, mais il a fini sa course dans le camion d'Hydro-Québec. Les travailleurs étaient dans la nacelle en haut. C'est sûr que le camion de signaleur a amorti le choc. Mais si le signaleur n'aurait pas été là, son camion n'aurait pas été là, le gars en haut dans la nacelle, à 20 pieds dans les hauteurs, là, je suis pas sûr qu'il aurait été, il serait sorti indemne. Il aurait peut-être tombé en bas, puis on aurait eu un travailleur décédé. Mais parce qu'Hydro-Québec, des fois, il entrave une voie, des fois, il entrave la moitié d'une voie. Pour ça qu'il nous appelle. Puis moi, c'est seulement la courtoisie. Si vous voulez, imaginez que vous êtes en train de conduire, puis c'est votre fille qui est à l'avant vous. Vous allez faire attention, c'est la même chose. Pensez, c'est votre enfant, et vous, je vous lance un défi. Je vous aimerais ça que vous venez passer quelques heures sur une fermeture d'autoroute. Venez voir comment ça se fait, une fermeture d'autoroute, puis j'aimerais ça qu'on s'en parle les jours qui suivent après, là, votre expérience. J'aimerais ça que vous viviez l'expérience de monter un chantier routier, là. Après ça, vous seriez peut-être le meilleur porte-parole vous pourrez facilement écrire un chapitre dans votre prochain guide de l'auto. Là. Il y a sûrement quelque chose que vous allez pouvoir faire. C'est le problème, c'est qu'on en parle seulement l'été, on en parle seulement quand il y a des accidents. Mais il faudrait que, au nombre de livres que vous vendez dans les des chroniqueurs de voitures, les émissions de télé qui parlent de voitures, les émissions à la radio qui parlent de voitures, s'ils prenaient une fois dans l'année ou deux fois, juste faire un rappel, ça passerait beaucoup. Tu sais,
on le prend, là, le temps.
Oui, vous le prenez. Mais si vous mettez un paragraphe dans votre guide de l'auto, vous montrez l'accident, là, vous dites, j'ai passé une nuit à travailler sur un chantier, j'ai eu la chienne de ma vie, le monde, au nombre de livres que vous vendez, là, ça va affecter pas mal de monde. Parce que malheureusement, on peut pas compter sur la Société automobile du Québec.
Je vous entends me dire ça, puis ce que je comprends, c'est on peut en conclure que c'est peut-être une négligence ou un non-souci de la part de la Société d'assurance automobile du Québec, encore une fois, qui ne fait pas son travail. Parce que là, si on considère qu'il y a eu plus de 350 blessés en 5 ans sur les chantiers et une dizaine...
C'est un réel problème,
une quinzaine de décès dans les 10 dernières années, c'est un sérieux problème. Puis on sait que la SAC... Tout ce qu'on veut à la SAC, c'est d'améliorer le bilan routier.
Ouais.
Tu sais, on ne comptabilise ironiquement que très peu le nombre de blessés sérieux sur les routes, mais le nombre de morts, ça, on y tient. On fait attention pour que ça baisse. Alors, ça serait peut-être un point intéressant qu'il faudrait soulever. Parce que moi, ce que je m'explique mal, et je reviens là-dessus, on ne se soucie, selon ce que vous me dites, que très peu de la sécurité des travailleurs, mais on donne des tickets en tabarouette à ceux qui vont excéder la vitesse permise dans une zone de construction et tout le temps quand il n'y a pas un donné travailleur sur place.
Et ça m'amène à vous poser une autre question. Ailleurs en Amérique du Nord, on va souvent voir, juste à l'entrée de chantier, on va voir des panneaux d'affichage sur lesquels on va placer des clignotants et les feux vont clignoter lorsque les travailleurs sont présents. Jamais au Québec, j'ai vu ce type de signalisation-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ce serait une bonne idée d'implanter cette signalisation-là? Là, au Québec, on voit ça souvent aux États-Unis.
Bien, je sais que présentement, le ministère des Transports va lancer des projets, dont un projet qui va avoir au début de chaque rang, quelques chantiers. Ils vont tester ça cette année. Ils vont mettre un radar qui va afficher la vitesse que vous roulez, comme en Ontario, la vitesse que vous roulez, puis la vitesse recommandée.
Je m'excuse de vous couper, là, mais ce qu'on a besoin, c'est pas une suggestion ou un projet pilote de la part du ministère des Transports.
C'est des
actions concrètes, c'est des grosses lumières qui disent « warning, il y a des gens sur place, faites attention, redoublez de prudence ». Parce que là, on ne fait pas la distinction entre un chantier de construction et un chantier de construction avec des travailleurs sur place. Il n'y en a pas de distinction. Et Germain a raison là-dessus. Lorsqu'on s'en va dans l'État de New York, on prend l'autoroute 87, bien, s'il y a un chantier de construction sur lequel il ne se passe rien, bien, il ne se passe pas grand-chose et on ne nous fait pas
Puis c'est correct que le chantier soit fermé le dimanche après-midi ou en pleine nuit, mais lorsqu'il y a des travailleurs, on veut le savoir et on veut mettre l'emphase là-dessus.
Oui, puis dans l'État de New York, attention, là, dépassez pas la limite permise parce que là, ça va être sérieux.
Amendes sont doublées.
Les amendes sont doublées et on va vous en donner une.
Ouais.
Alors qu'ici, c'est une joke, là. On profite du fait qu'il y a un chantier de construction. On se demande même si des fois on n'invente pas des chantiers de construction pour donner des amendes plus salées. Là. C'est pas des farces. Alors, je comprends très bien votre point, mais conscientiser les gens, c'est une bonne idée. Et évidemment, ça revient encore à... Faut encore envoyer un message à la SAC de faire son travail.
Ça pourrait devenir carrément un volet supplémentaire dans le cours de conduite, par exemple, un volet de sensibilisation aux travailleurs routiers. Là.
Et je me permets de vous dire... Allez-y.
Nous, on a proposé à la SAC, là, au ministère des Transports, parce que la Société automobile du Québec ne veut pas nous rencontrer depuis 2012.
Ils veulent on est vraiment surpris.
Mais, sauf que nous autres, on a dit au ministère des Transports, dans chaque cours de conduite, il devrait avoir au moins un heure que la personne passe une heure dans son cours de conduite sur un chantier technique, l'ozone, n'importe quelle école de conduite pourrait faire une entente avec une compagnie de signalisation. Montez-moi un chantier une fois par semaine. Je vais faire passer mes élèves dedans dans le cours de centre d'achat un dimanche. On fait un...
Mon cher, si vous saviez à quel point on est loin de là dans les écoles de conduite, on a de la misère à expliquer aux automobilistes qui prennent aux futurs automobilistes comment fonctionne un système de frein ABS avant qu'on fasse des mises en situation. À part un stationnement en parallèle, là, vous n'avez pas idée à quel point les écoles de conduite, on est arriéré, mais pas un peu, en termes de formation. Alors, je serais bien surpris, malheureusement, que ce soit des choses qui arrivent. Puis le nombre d'heures de formation au volant est très limité, en passant.
Alors, il y a beaucoup d'heures en classe, oui.
Ouais.
en classe, en fait quoi? Il passe pas assez de temps à aller d'un, c'est quoi un signaleur? Il savent même pas c'est quoi la différence entre signaleur. Mais qu'est-ce que le monde devrait comprendre? C'est que le signaleur a le même rôle qu'un agent à la paix selon l'article 311 puis l'article 314.1 du Code routier. Le signaleur est considéré comme un agent à la paix et comme le brigadier est considéré comme un agent à la paix lorsqu'il est en fonction.
Effectivement.
Fait qu'on peut remettre des billets. Moi, je sais, j'en remets des billets quand le monde ne me respecte pas. J'ai la chance de prendre une photo, le numéro de plaque de la personne. Je vais en cours municipal, puis les juges, je commence à donner l'étiquette, mais l'étiquette, c'est 380$ puis 4 points de mérite. On vous tue. Moi, je pense que le signaleur, l'amende devrait être aussi élevée qu'un autobus scolaire.
Ce que vous me dites, c'est que vous avez l'autorité de pouvoir émettre une amende?
Oui.
Au même titre qu'un brigadier, par exemple.
Sauf que vous allez le faire par l'intermédiaire de la cour.
C'est ça. Il faut appeler la police, puis il faut remplir un constat. Eux, le policier va intercepter, il va aller voir l'automobiliste s'ils ne peuvent pas l'intercepter immédiatement. Puis après ça, dans une couple de mois, ben tu reçois une lettre de la justice qu'il faut que tu te présentes à cour. Là, tu en vas en cour, tu expliques ton histoire, puis le juge, moi, dans mon expérience, à moi, le juge a toujours de condamner les chauffeurs.
Sauf que je comprends qu'en même temps, c'est pas votre rôle principal, puis vous pouvez pas faire la job de la police non plus. Vous êtes là pour assurer la sécurité des travailleurs. Si vous commencez à donner des amendes à tous ceux qui respectent pas, vous finirez plus. Vous avez une double job, puis là, ben votre salaire sera pas justifié.
Ils sont pas conscients la job du signaleur. C'est 12 heures, des fois 18 heures debout. Souvent, on n'a pas une toilette à côté de nous autres. On a souvent pas la chance de dîner ou souper sur notre chantier. On fait ça parce qu'on aime notre travail. On aime ça être à l'extérieur. On aime rencontrer du monde. Mais là, quand on voit les chiffres monter comme ça, là, en plus, on a une pénurie de personnel. Le monde ne veut plus venir travailler parce que qu'est-ce qu'il voit dans les journaux? C'est un décès de signaleur, les conditions de travail pourries, les automobilistes ne les respectent pas. C'est pas encourageant d'engager les jeunes aujourd'hui à aller travailler, dire « Gabin, tu as une chance sur deux de revenir chez vous ». Ils sont pas intéressés, les jeunes d'aujourd'hui, à aller faire notre métier. Pourtant, c'est le plus beau métier. Là. On est à l'extérieur, on rencontre du monde, on aide, tout. Mais le contexte du travail fait que toutes les grosses compagnies de signalisation embauchent, mais ils sont pas capables de garder leur personnel parce que le monde vient tellement choquer voir leur façon que le monde les traite sur les chantiers. C'est affreux, là.
Bon, bien, M. Dionne, alors, merci d'avoir pris le temps. On va demander, évidemment, aux gens d'être courtois sur les chantiers, de ralentir à l'avance, de ne pas se battre pour être le premier en avant.
Et de respecter le corridor, effectivement.
Puis peut-être aussi envoyer un message particulièrement aux camionneurs, parce qu'on sait que immobiliser un Kenworth, c'est un peu plus long que d'immobiliser une Civic.
Effectivement.
Mais en attendant, moi, je me permets de vous dire que je vais relever votre défi et ça va me faire grand plaisir d'aller porter votre habit et de passer quelques heures sur un chantier pour voir comment ça se passe.
Je te confirme, Antoine.
Fusiller des yeux par des automobilistes qui veulent pas me voir là.
Tu ne seras pas tout seul avec ton dossard orange. J'accepte le défi également.
Bon, alors, on reste en contact et on pourra organiser le tout et réaliser un petit vidéo pour le site du Guide de l'auto par rapport à ça. Alors, merci, M. Dionne, d'avoir pris le temps.
On va vous faire tester les deux métiers, l'installateur puis le signaleur. Vous allez voir que c'est deux conditions différentes de travail puis deux stress différents, mais on parle tout de la même chose.
Germain, tu vas être l'installateur, moi je vais être signaleur.
Oui, c'est
on
ça.
On va se partager les tâches équitablement.
Oui, me semble, oui.
Ça marche.
Merci, M. Dionne.
Bonne journée. OK, au revoir.
Merci, au revoir.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le Guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, comme chaque semaine, on finit l'émission avec quelques questions du public. On a Simone qui possède une Subaru Impreza à haillons à boîte manuelle et elle cherche à la remplacer. Elle a un budget d'environ 20 000 $ et envisage l'achat d'une Subaru WRX 2014. À quoi ressemble la fiabilité pour cette voiture-là? Et elle se demande si elle doit se méfier d'un moteur qui a été refait récemment.
Ah, oh, Seigneur, oui.
Pour moi, c'est un signe d'une voiture qui a été malmenée.
Non, moi, une WRX d'occasion qui a cet âge-là, chercher à connaître le pedigree, l'entretien total de cette auto-là. C'est souvent des voitures qui sont malmenées, qui sont brassées. C'est un risque. C'est un risque qui n'est même pas calculé que d'acheter ça usagé si la voiture n'a pas été méticuleusement entretenue et si vous ne connaissez pas son historique. Acheter une WRX neuve, c'est une voiture solide, c'est une voiture fiable, il n'y a aucun problème, mais dans l'occasion, le risque est exponentiellement plus élevé parce que, justement, ce sont des voitures qui se font brasser la cage et qu'on achète pour ça. Alors, je comprends votre coup de cœur, mais malheureusement, c'est un trop grand risque pour moi, à moins, bien sûr, que vous connaissiez l'acheteur initial et que vous connaissiez l'histoire de la voiture de A à Z.
Mais sinon, c'est un peu trop risqué.
Ouais.
On a Stéphane qui se demande ce que tu penses de l'achat d'une Acura NSX flambant neuve.
Ouais, c'est une super voiture, là, la NSX. Ouais. Moi, je l'ai conduite. J'ai vu ce qu'elle était capable de faire sur un circuit. Elle est quand même capable de transmettre de super sensations. C'est pas achetable, par exemple. Le prix est très, très, très élevé.
Parce que pour le prix d'une NSX neuve, on va avoir une 911 très bien équipée, finalement.
Oui, puis je veux dire, la NSX, malheureusement, Acura a trop tardé à arriver avec cette voiture-là. On est arrivé sur le marché en 2017. Ça faisait 3, 4, 5 ans qu'on nous la montrait en forme.
Qu'on voyait des prototypes dans des salons, des photos sur Internet. Fait que finalement, une fois qu'elle est arrivée, l'engouement, ben, c'était un peu estompé.
Oui, puis je veux dire, c'est dommage parce qu'Acura aurait pu en faire une voiture, je veux pas dire une voiture à volume, mais aurait pu en faire une voiture beaucoup plus commercialement populaire. On aurait pu vendre cette voiture-là un peu moins cher, en fabriquer, en offrir, la rendre disponible. On a préféré ne pas faire d'argent et la conserver comme allocar pour la marque. Mais là, aujourd'hui, les concessionnaires en commandent pratiquement pas. C'est une ou deux par année seulement. Ça se vend au compte-goutte. Oui, c'est une voiture d'exception, mais c'est quand même une voiture qui va perdre la valeur. Il n'y a pas l'intérêt dans l'occasion pour une auto comme ça. C'est pas une auto... On ne se battra pas aux portes pour acheter ça à 225 ou 250 000 $. C'est pas vrai. Parce que à ce compte-là, on va préférer aller acheter une 911 GT3. Là,
absolument.
Te dire. Alors, c'est trop cher. C'est tout simplement trop cher. J'en enlève rien à la technologie qu'on a dans cette auto-là. Puis j'ajouterais aussi que quand on prend place à bord et qu'on voit ce vieil écran-là, là, central, là, commande, là, à 200 000, là, ouais. Updatez-moi ça, s'il vous plaît. Mais il faudrait... Moi, je déteste la planche de bord de cette auto-là, tout simplement. C'est trop chargé, c'est trop lourd. Il faudrait épurer. C'est une voiture qui est quand même exceptionnelle, qui a 573 chevaux et qui, sur un circuit, est capable de se défendre de très, très, très belle façon et de vous procurer de super sensations. Mais
une voiture qui est relativement facile à conduire sur circuit. Ouais. J'avais eu la chance de la conduire sur une piste interne de Honda et franchement, j'avais été surpris. Je suis vraiment loin d'être un pilote, mais franchement, on ne se bat pas avec la voiture, même quand on la pousse assez haut. Là.
C'est sûr que au niveau de la... C'est pas une voiture qui est particulièrement communicative au niveau des sensations, pas comme une Porsche 911 en tout cas, mais selon le mode de conduite que tu adoptes, il y a moyen d'avoir pas mal de plaisir avec ça, hein, pas besoin de te dire. Mais c'est ça. Moi, je pense que l'erreur d'Acura, c'est de l'avoir lancé trop tard, de ne pas avoir fait de mise à jour de l'habitacle et de ne pas l'offrir, de ne pas la rendre disponible plus qu'elle l'est.
Et on vit avec les conséquences en ce moment.
C'est une auto qui a 160 ou 170 000 $ aurait pu connaître un succès commercial intéressant, mais à 240-250 000 $ quand on prend l'ensemble des options, pour moi, ça n'a aucun bon sens.
Bon, intéressant. On a Lynn qui a commandé un Chevrolet Bolt EUV 2022. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que la Bolt régulière serait un meilleur choix?
Ben, c'est la même chose. Alors, vous avez choisi une carrosserie plutôt qu'une autre, mais au niveau technologique, c'est la même chose. Alors,
c'est l'enveloppe qui est différente.
Ben oui, c'est l'enveloppe, puis je me permets probablement de vous dire que le EUV va être plus populaire que la Bolt régulière parce que pour 2000 $ de différence, les gens vont préférer opter pour le VUS plutôt que pour la voiture. Pas plus compliqué que ça. C'est un excellent choix. On connaît la technologie qu'il y a là-dedans. C'est déjà éprouvé, c'est déjà réputé. La fiabilité de cette auto-là, elle n'a pratiquement pas d'égal dans le monde de l'électricité. électrique en ce moment. J'ai vraiment hâte de la conduire parce que j'ai hâte de voir le confort des sièges et l'aménagement intérieur par rapport au modèle qu'on a actuellement. Mais oui, vous ne vous trompez pas en commandant ce produit-là, ça c'est certain.
Merci beaucoup Antoine. La semaine prochaine, ben, tu nous parleras de la BMW M5 oui. que tu as remise à l'essai. Et je t'annonce que je devrais conduire finalement le Suburban Diesel. On se rappelle
oui.
que je n'avais pas pu le mettre à l'essai parce que ben, il avait été rempli avec de l'essence ordinaire. Mais bon, la situation semble s'être réglée. Finalement, je pourrai le conduire dans les prochains jours. Donc, mais tant que je ne l'ai pas entre les mains, j'y croirai pas. On dira ça comme ça. Merci beaucoup, Antoine.
OK, bonne semaine.
Cube Radio.